Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, Agence Santé Québec, jouer l'éponge Pilate. Il n'y a pas de seuil de consommation d'alcool sécuritaire. Pourquoi le Vietnam entre dans l'année du chat et pas du lapin? Et télé-réalité, un amour impossible au Québec. Bonne écoute.
Agence Santé Québec, jouer les ponces Pilate. Un texte de Michel David, paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, se serait bien passé de courir à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont le lundi 16 janvier pour trouver un moyen d'empêcher la fermeture de l'urgence ainsi que la démission d'une centaine d'infirmières excédées par les heures supplémentaires qu'on leur impose et l'ambiance toxique qui y règne. Pas plus tard que la semaine du 14 janvier, il avait exprimé son déplaisir d'avoir à éteindre des feux et régler des urgences, alors qu'il voudrait plutôt se concentrer sur des actions ayant des effets structurants qui vont changer les choses. Le premier ministre Legault a cependant jugé que la situation à Maisonneuve-Rosemont était suffisamment critique pour que le ministre s'en mêle. En réalité, M. Dubé n'avait pas réellement besoin de se déplacer pour nommer une conciliatrice et ordonner qu'une partie des ambulances soit détournée vers d'autres établissements afin de soulager un des services d'urgence les plus achalandés du Québec. On n'insistera cependant jamais assez sur l'importance de la perception en politique. M. Legault jugeait indispensable que le ministre démontre par sa présence que le gouvernement était conscient de la gravité de la situation et n'entendait ménager aucun effort pour y remédier. De la même façon, un ministre responsable de la sécurité publique se fait un devoir de se précipiter vêtu de bottes sur les lieux d'une inondation, même si la manipulation d'un ou deux sacs de sable sous l'œil des caméras de télévision n'améliore en rien le sort des sinistrés. Au cours de la dernière campagne électorale, M. Dubé avait repris l'idée d'une agence distincte du ministère qui serait baptisée Santé Québec. Il promettait, en cas de victoire de la coalition Avenir Québec, sa mise en place dès l'été 2023. Son rôle serait d'assurer le bon déroulement des activités quotidiennes dans les établissements du réseau, alors que le ministère se concentrerait sur la définition des grandes orientations, la planification, le suivi de la performance et des budgets. À l'entendre, on croirait que cela permettrait de décentraliser et débureaucratiser le réseau et d'offrir un accès à des soins plus humains et plus efficaces. Reprenant un vieux cliché, le ministre se réjouissait qu'on arrive enfin à ne plus prendre des décisions dans les tours de bureau, mais sur le terrain. Philippe Couillard avait déjà proposé une entité de ce genre dans un discours prononcé devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en 2011, pendant une pause dans sa carrière politique. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose que le ministre de la Santé soit le dirigeant suprême du système de santé lui-même, ou est-ce qu'il ne devrait pas, comme élu, être parmi ceux qui évaluent les résultats du système et posent des questions par rapport aux objectifs que lui, comme homme ou femme politique, aura déterminés? Demandait-il. Peut-être avait-il à l'esprit l'exemple d'Alberta Health Service, une société d'État quasi indépendante du gouvernement albertain créée en 2008. Une fois devenu premier ministre, il a pourtant fait exactement le contraire, laissant Gaétan Barrette s'arroger plus de pouvoir sur le réseau qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'avait fait. La création de Santé Québec viserait non seulement à alléger la gestion du réseau, mais aussi à le dépolitiser. On peut toutefois se demander jusqu'à quel point on peut dissocier santé et politique dans la mesure où le gouvernement va continuer à déterminer les budgets et à négocier les conventions collectives. S'agit-il de dépolitisation ou plutôt de déresponsabilisation? Ce qui peut convenir aux revenus ou aux transports ne convient pas nécessairement à un domaine comme la santé. Tant qu'à y être, pourquoi pas une agence Éducation Québec? Les gestionnaires du réseau de la santé sont déjà tenus largement pour responsables des maux qui l'affligent. Ils n'ont pas une cote populaire favorable et cela s'avère bien pratique pour plusieurs, écrivait dans Le Devoir du 20 janvier la PDG de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, Carole Trempe. La compétence est sans doute répartie de façon inégale entre les gestionnaires, mais ils font des boucs émissaires bien commodes. Il serait encore plus facile de faire porter la responsabilité à une agence distincte du gouvernement, dont on pourrait régulièrement faire le procès en commission parlementaire. En 2014, le gouvernement Couillard avait ordonné des compressions de l'ordre de 100 millions de dollars à la défunte Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Quand elle a entrepris de remplir cette commande, qui allait inévitablement affecter les services, M. Couillard est aussitôt monté sur ses grands chevaux. « Inacceptable », a-t-il lancé. Il n'est pas question pour nous d'accepter ce genre de scénario de quelque organisme public que ce soit. Quand un problème s'avère insoluble, pourquoi se rendre responsable alors que d'autres peuvent l'être, n'est-ce pas? C'était Agence Santé Québec, jouer les Ponces Pilate, un texte de Michel David paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir.
Il n'y a pas de seuil de consommation d'alcool sécuritaire. Un texte de Mylène Crête, paru le 17 janvier 2023 dans La Presse. Le Centre canadien sur les dépendances persiste et signe. Prendre 3 verres d'alcool par semaine présente déjà un risque modéré pour la santé. Aucune quantité d'alcool n'est bonne pour la santé. C'est la conclusion du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, chargé de revoir les lignes directrices sur la consommation d'alcool. Dans son rapport, il recommande à Santé Canada de changer d'approche pour inciter les gens à moins boire et de rendre obligatoires les étiquettes de mise en garde sur les bouteilles. Les jours où vous prenez de l'alcool, limitez votre consommation à 2 verres standards. Résume en entrevue la directrice associée à la recherche par intérim du CCDUS, Catherine Paradis. Il s'agit de la quantité jugée à faible risque pour éviter les effets négatifs sur la santé. Le groupe d'experts qu'elle a co-présidé a procédé à une revue exhaustive de la littérature scientifique sur le sujet. Il avait été mandaté par Santé Canada pour mettre à jour les directives fédérales sur la consommation d'alcool à faible risque en vigueur depuis 2011. Son rapport final a subi quelques modifications par rapport aux documents de consultation rendus publics à l'été 2022, mais ses conclusions sont les mêmes. Il n'y a pas de seuil de consommation d'alcool qui soit sécuritaire, explique Mme Paradis, citant au passage un article publié dans la revue scientifique The Lancet Public Health par des chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui en sont arrivés aux mêmes conclusions. Le CCDUS propose donc une petite révolution dans la façon d'aborder la consommation d'alcool. Fini la recommandation de 2 verres standards par jour jusqu'à concurrence de 10 par semaine pour les femmes et de 3 verres standards par jour pour les hommes jusqu'à 15 par semaine pour les hommes. Il propose plutôt un continuum de risque en fonction de la quantité d'alcool consommée par semaine pour que les gens puissent faire des choix éclairés. Risque faible, 1 ou 2 verres standards par semaine. Risque modéré, de 3 à 6 verres standards par semaine. Risque de plus en plus élevé, 7 verres standards ou plus. Selon ces nouveaux repères, peu de risques sont associés à la consommation de 1 ou 2 verres par semaine, sauf durant la grossesse, où il vaut mieux s'abstenir. Le risque de développer plusieurs cancers, comme celui du sein ou du côlon, augmente lorsque l'on boit de 3 à 6 verres par semaine, et le risque d'avoir une maladie du cœur ou un accident vasculaire cérébral s'ajoute lorsque l'on boit 7 verres ou plus de façon hebdomadaire. L'alcool est également en cause dans les maladies du foie qui sont en hausse au pays et dans des épisodes de violence. Le premier message devrait être le suivant. On ne boit pas pour sa santé et il n'y a aucune consommation qui est bonne pour sa santé, souligne Réal Morin, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Il y avait une ambiguïté antérieurement là-dessus, ajoute-t-il. L'INSPQ entend revoir ses contenus d'information sur l'alcool et la santé pour y intégrer ces nouvelles données. Le Dr Morin note que la démarche scientifique du CCDUS a été très, très rigoureuse et qu'elle respecte en tout point les standards de qualité les plus élevés. Nous, c'est clair qu'on va intégrer ce continuum-là à nos messages, à nos campagnes. La seule chose avec laquelle on n'est pas très à l'aise, c'est de parler de consommation par semaine, déclare Geneviève Desautels, directrice générale d'Éducalcool. Il y a une croyance qui dit « Moi, je ne bois pas la semaine, mais je bois la fin de semaine », explique-t-elle. Les gens vont le penser comme ça. « J'ai droit à 6 verres et je vais demeurer en santé. » Non. C'est la raison pour laquelle le CCDUS, dans son rapport final, recommande de limiter sa consommation à 2 verres standards les jours où l'on consomme de l'alcool. Dans son rapport, le CCDUS recommande également au gouvernement fédéral de rendre obligatoire l'étiquetage des bouteilles d'alcool pour que les gens soient informés du nombre de verres standards qu'elles contiennent, des nouveaux repères de consommation et une mise en garde sur les risques pour la santé. Le sénateur Patrick Brazeau a déjà déposé un projet de loi en ce sens au Sénat. Éducalcool, qui est responsable des campagnes sur la consommation responsable d'alcool au Québec, est favorable au fait que le nombre de verres standards y soit inscrit, mais pas la mise en garde. L'organisme sans but lucratif, qui réunit des membres de l'industrie, de la société civile et des scientifiques, soutient que plusieurs autres facteurs peuvent causer le cancer et qu'il est difficile de l'associer uniquement à la consommation d'alcool. Or, l'OMS considère que l'alcool est un cancérigène du groupe 1 au même titre que le tabac ou l'amiante. Selon Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, une consommation, c'est 341 ml de bière, de cidre, de couleur ou de prêt-à-boire à 5 % d'alcool, 142 ml de vin à 12 % d'alcool, 43 ml de spiritueux à 40 % d'alcool. C'était Il n'y a pas de seuil de consommation d'alcool sécuritaire, un texte de Mylène Crête paru le 17 janvier 2023 dans la presse. Pourquoi le Vietnam entre dans l'année du chat et pas du lapin? Un texte de l'agence France-Presse, paru le 19 janvier 2023 dans la presse. Hanoï. Le nouvel an lunaire ou chinois sera célébré un peu partout dans le monde pour accueillir l'année du lapin, sauf au Vietnam où c'est l'année du chat qui va débuter. Dans tout le pays, les rues sont ornées de statues de félins et les magasins regorgent de décorations sur le thème du chat, cadeau très prisé pendant le nouvel an vietnamien appelé « Tet ». Le Vietnam et son voisin chinois, où le nouvel an lunaire est la période la plus importante du calendrier, partagent 10 des 12 signes du calendrier zodiacal, mais les Vietnamiens honorent le chat au lieu du lapin et le buffle au lieu du bœuf. Il existe une multitude de théories pour expliquer pourquoi les Vietnamiens ont opté pour le chat. La réponse pourrait se trouver dans les rizières chères aux agriculteurs vietnamiens, selon l'historien Nguyen Yu Tin. Avec la menace de nombreux rats dans les chanderies, les chats, qui peuvent les chasser, sont un animal populaire pour les Vietnamiens, déclare-t-il à l'AFP. Une autre explication est que les Vietnamiens ne veulent pas observer deux années avec un animal similaire. Or, pour eux, la souris et le lapin sont étroitement liés, a ajouté l'expert. Selon une autre théorie, cela proviendrait d'une erreur de traduction du mot chinois « mao » qui désigne le lapin. En vietnamien, cela ressemble à « meo » qui signifie « chat ». L'année du chat est censée porter chance et garantir une vie sans heurts. À Hanoï, où kumquats et fleurs roses ont envahi les étals, Owang Thi Huong Giang, employé de bureau, ignorait les raisons pour lesquelles les Vietnamiens honorent un animal du zodiaque différent de celui du reste du monde. Mais elle pense que ceux qui sont nés dans l'année du chat, comme elle, ont plutôt bon caractère. Il semble vrai que ceux qui sont nés durant l'année du chat sont souvent plus actifs, plus travailleurs et plus faciles à vivre, dit fièrement Jiang. C'était « Pourquoi le Vietnam entre dans l'année du chat et pas du lapin ?» Un texte de l'agence France Presse, paru le 19 janvier 2023 dans La Presse. Télé-réalité, un amour impossible au Québec? Un texte de Annabelle Caillou, paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir. Il y a 20 ans, les grands réseaux de télévision québécois se lançaient dans un nouveau genre aussi aimé que méprisé, la télé-réalité. Depuis, les émissions se sont multipliées, fracassant des records de cotes d'écoute et gagnant petit à petit le cœur et le respect tant du public que des médias traditionnels. Mais entre les ratés, les controverses et la perte de vitesse du petit écran, peut-on toujours lui prédire un aussi bel avenir? Premier texte d'une série qui se poursuivra au cours des prochaines semaines. Février 2003. La journaliste et chroniqueuse télé Thérèse Parisien suit avec attention sur son petit écran, comme des centaines de milliers d'autres Québécois, l'arrivée de Wilfred Leboutillier, Marie-Hélène Thibert et leurs autres compagnons à l'Académie de Sainte-Adèle. Les 14 candidats découvrent alors en direct l'endroit où ils suivront pendant plusieurs semaines des cours de chant, de danse ou de théâtre pour devenir des artistes à part entière. Mais ils découvrent aussi et surtout le nouvel environnement dans lequel ils vont vivre et être filmés 24 heures sur 24, du jamais vu au Québec. Je suivais déjà ce qu'ils se faisaient ailleurs, en France notamment, et je me disais bien que la télé-réalité allait arriver au Québec, mais ça nous a vraiment frappés d'un coup, et pas qu'un peu, se souvient Thérèse Parisien. Cette année-là, ce sont trois grosses productions, adaptées pour certaines de concepts étrangers, qui ont atterri dans la grille horaire télé. Star Academy a lancé le bal durant l'hiver 2003, Love Story et Occupation double ont suivi durant l'automne. Certes, on avait connu Pignon sur rue au milieu des années 1990 et Mixmania en 2002, mais ce n'était que les prémices de la télé-réalité de masse. En 2003, on se retrouve avec ce nouveau format, basé sur le principe expérimental d'enfermement. On prend des gens ordinaires, on les met en cage en quelque sorte, on braque les caméras sur eux et on regarde ce qu'il se passe, explique le spécialiste de la télévision Pierre Barrette, aussi professeur et directeur de l'École des médias à l'UQAM. À l'époque, le concept créait un buzz en Europe, mais Thérèse Parisien ne pensait pas qu'il s'imposerait pour de bon. Je pensais vraiment que ce serait une vague, un souffle de renouveau pour la télé québécoise, mais que ça ne survivrait pas longtemps. De toute évidence, je me suis trompé, lance-t-elle en riant. 20 ans plus tard, force est de constater que le genre télévisuel s'est bel et bien enraciné. Des émissions comme Star Academy et Occupation double sont encore au programme, quelque peu retouchées après une pause, et attirent toujours autant les téléspectateurs. Mais de multiples nouveaux formats ont également fait leur apparition au fil des années. Sans trop de surprise, les téléréalités amoureuses ont particulièrement la cote et semblent être un concept inépuisable. Pensons à L'île de l'amour, 5 gars pour moi, L'amour est dans le pré, Si on s'aimait, ou encore Cœur de trucker. Des personnalités publiques embarquent désormais dans l'aventure avec des émissions comme Big Brother Célébrité. Les télé-crochets tels que La Voix ou Révolution se multiplient aussi à vue d'œil, et c'est sans parler des formats d'aventure qui feront aussi leur apparition en 2023, soit Sortez-moi d'ici et Survivor. La télé-réalité a ainsi réinventé les codes du petit écran avec des concepts qui se déclinent à l'infini. Elle rassemble encore les gens devant leur télé, malgré sa mort annoncée depuis des années. Elle génère de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels qui en parlent aujourd'hui plus que jamais. Vous écoutez « Télé-réalité, un amour impossible au Québec », un texte de Annabelle Caillou paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir. Amour-haine. Au début, rien ne prédestinait la télé-réalité à un avenir aussi radieux. Dès son arrivée à l'écran, elle génère de toutes parts de vives critiques. Une large frange de la population la qualifie de télépoubelle. On crie au voyeurisme et à l'exploitation d'êtres humains par les grosses productions. On juge avec dédain le fait de suivre le quotidien ennuyeux de personnes ordinaires. Il y avait vraiment un dégoût, de la haine, du rejet pour la télé-réalité. C'était pas digne de s'y intéresser, explique Pierre Barrette. Pourtant, dit-il, avec des cotes d'écoute de 1,3 à 1,8 million, ce qui est beaucoup au Québec, ça signifie que les gens en écoutaient, mais avaient honte de le dire. Et ceux qui l'avouaient assuraient regarder la télé-réalité au second degré, c'est-à-dire pour en rire, tourner ça au ridicule et se vider le cerveau, poursuit le professeur. Thérèse Parisien le reconnaît. Longtemps, j'ai eu du mal à dire que j'aimais vraiment ça. Tu sais, as-tu déjà avoué que t'aimes écouter la discussion du couple à côté de toi au restaurant? C'est super divertissant, mais c'est pas chic de le faire. Tu te sens coupable, alors tu le dis pas, donne-t-elle en exemple. Bien sûr, elle en parlait parfois dans le cadre de son travail, généralement en regardant ça de haut. Chaque fois, des auditeurs lui écrivaient pour exprimer leur mécontentement et leur incompréhension de voir un tel sujet bas de gamme être traité dans les médias. La télé-réalité a bouleversé plein de codes télévisuels. Tout le monde a été saisi, autant les chroniqueurs, l'industrie de la télévision que le public. Comme média, on ne savait pas trop comment l'analyser, comment en parler, ni même comment la définir, surtout en voyant les vives critiques dans la société, se souvient de son côté le directeur adjoint à l'information au Devoir, Paul Cochon, qui était chroniqueur télé et médias au début des années 2000. Comme beaucoup, il a adopté une posture quelque peu condescendante envers ses émissions. 2003 passera à l'histoire comme l'année où tous les mythes sur la télévision québécoise se sont écroulés. Oui, notre télévision peut être aussi débile et ridicule que dans d'autres pays. Non, nous ne sommes pas immunisés contre la bêtise, écrivait-il en novembre 2003. J'ai parfois été dur, admet-il. Je ne peux pas dire que depuis je suis devenu fan, mais clairement, la télé-réalité a gagné. Ça s'est incrusté dans le paysage, on ne peut pas ignorer un tel phénomène. Selon le professeur Barrette, un changement s'est opéré dans les dernières années, le public avouant plus facilement, sans honte, aimer et être diverti par ce genre télévisuel. C'est tellement ancré que c'est devenu normal et populaire d'aimer ça. Les gens veulent donner leur opinion, avoir un esprit critique sur les émissions, participer aux discussions que ça génère sur les réseaux sociaux, note-t-il. Le fait que des personnalités publiques embarquent dans certaines aventures, comme Big Brother Célébrité, et que d'autres affirment dans l'espace public aimer la télé-réalité au même titre que des séries, par exemple, ajoutent nécessairement une couche de légitimité. Il y avait vraiment un dégoût, de la haine, du rejet pour la télé-réalité. C'était pas digne de s'y intéresser. Pierre Barrette. De l'avis de Paul Cochon, cette plus grande acceptation découle aussi d'une meilleure compréhension du genre télévisuel. On comprend mieux maintenant que c'est davantage un jeu qu'une sorte d'expérience psychologique. Il y a des règles, des codes, des stratégies qu'on a intégrées. On comprend mieux que c'est souvent scénarisé par le choix des plans de caméra, le montage, etc. Ça raconte une histoire. Encore un bel avenir? Si la télé-réalité semble être là pour de bon, elle n'est pas à l'abri d'une lassitude de la part des auditeurs. Le danger, c'est que ça devienne trop prévisible, surtout dans les télé-réalités amoureuses, où l'on risque de ne plus y croire. On se dit déjà que les gens cherchent surtout à mousser leur popularité. Laisse tomber Thérèse Parisien. Les productions vont devoir travailler fort, dit-elle, pour continuer de nous surprendre, mais surtout pour ramener l'ingrédient magique des débuts, l'authenticité. Il faut que ce soit proche de nous, on veut se reconnaître dans notre télé, affirme-t-elle. C'était « Télé-réalité, un amour impossible au Québec », un texte de Annabelle Caillou, paru le 21 janvier 2023 dans « Le Devoir ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Suzanne Beauchamp, Francine Thériault et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.